It is a story that
Voici une histoire qui ne prend pas une ride. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il nous paraît remarquable que le Fils de Dieu lui-même, le grand Jéhovah d'autrefois, soit né dans ce monde mortel dans les plus humbles circonstances. Une auberge aurait été suffisamment humble, mais ce ne fut même pas une auberge qu'il naquit, ce fut dans une étable. Et l'on coucha le nouveau-né sur la paille d'une mangeoire où se nourrissaient des animaux communs. Une grande preuve de condescendance aurait déjà été que Jésus se soumette à la mortalité, même s'il avait dû naître dans les circonstances les meilleures et les plus élégantes. Avec Paul, nous nous émerveillons que Dieu ait envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et qu'il soit devenu un bébé, qu'il ait été un enfant, puis un homme subissant les tentations, la souffrance du corps, la faim, la soif et la fatigue et même la mort. Comment se fait-il que celui qui régnait au plus haut des cieux, le Créateur même de la terre, et consentit à naître dans la chair et à demeurer sur son marche-pied dans la pauvreté, méprisé et victime de mauvais traitements, puis finir crucifié. Pourquoi cette dégradation quasi inconcevable? Jésus a expliqué, « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Fidèlement, Jésus supporta tout ce qui était nécessaire dans la vie et dans la mort, pour expier, racheter et établir un modèle céleste pour les enfants de Dieu, pour nous. Il était essentiel que le Fils de Dieu naisse dans la chair et descende au-dessous de tout, afin de tout racheter. Paul a dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, afin de remplir toutes choses. Puis, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Dans la Révélation moderne, nous lisons « Lui qui est monté là-haut, de même qu'il est descendu au-dessous de tout, en sorte qu'il a compris toutes choses, afin d'être en tout et à travers tout la lumière de la vérité. » Laquelle lumière brille? C'est la lumière du Christ. Jésus était le premier-né des esprits et le Fils unique de Dieu dans la chair. Bien que nous ne soyons pas engendrés de Dieu dans la chair, nous sommes tous comme Jésus, la postérité spirituelle de Dieu. Ainsi, notre naissance dans la mortalité est aussi un peu une condescendance et a, comme celle du Christ, un but noble. Tout comme Jésus, nous sommes descendus du ciel pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés et pour réaliser, par la grâce du Christ, l'immortalité et la vie éternelle. N'était-il pas important pour nous, tandis que nous nous efforçons de nous élever, de descendre aussi au-dessous d'au moins quelque chose, afin de comprendre plus pleinement le Christ et de devenir plus semblable à lui? Si Jésus avait besoin de certaines expériences, se peut-il que nous ayons, nous aussi, besoin de certaines difficultés et de certaines épreuves, afin que nos entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin que nous sachions, selon la chair, comment nous secourir les uns les autres selon nos infirmités? Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, pendant que ce dernier était incarné dans la prison de Liberty au Missouri, certaines choses que Joseph devait encore subir. Puis il a dit, « Toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui ?» En cette période de l'année, je me rappelle l'expérience poignante de Joseph Smith, le sixième président de l'Église, plus tôt dans sa vie, quand il était jeune père de famille. Il travaillait au bureau de la dîme de l'Église, de 6h du matin à 11h du soir, et recevait pour son travail $3 par jour d'argent de la dîme. Cela veut dire qu'il pouvait aller au magasin de la dîme et échanger son bon d'achat contre de la farine, de la viande ou de la mélasse. Au moins, sa famille avait-elle de la nourriture? Pas beaucoup, il est vrai, et pas d'argent. Il a décrit ce qu'il a éprouvé cette année-là, où il aspirait à donner à sa famille un Noël merveilleux. En sortant de chez moi, j'étais animé de sentiments que je ne puis décrire. Je voulais faire quelque chose pour mes enfants, quelque chose qui leur fasse plaisir et qui distingue le jour de Noël de tous les autres. Mais je n'avais pas un centime pour le faire. J'ai parcouru Main Street en long et en large, regardant la devanture de chaque magasin, puis je me suis retiré de la vue des humains. Je me suis assis et j'ai pleuré comme un enfant. Après avoir donné libre cours à mon chagrin et avoir soulagé mon cœur douloureux, je suis rentré chez moi, les mains aussi vides qu'avant, et j'ai joué avec mes enfants, reconnaissant et heureux de les avoir. Joseph Smith a été élevé sans son père, Hiram Smith. Dans sa jeunesse, il était parfois difficile et indiscipliné. Je ne peux m'empêcher de penser que cette expérience et d'autres ont contribué à faire de lui l'homme fort, tendre et spirituellement sensible qu'il est devenu. Tout comme le Sauveur qui a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les expériences du Sauveur dans la condition mortelle avaient un but rédempteur. Ces expériences comportaient, bien entendu, une vie de service quasi continuelle à ses semblables. Si nous regardons constamment vers lui, en nous reposant les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint-Messie, tout ce que nous vivrons nous rendra nous aussi meilleurs et nous portera à mieux nous servir et à secourir les uns et les autres. À Noël, en réfléchissant à la naissance de Jésus et à sa vie exemplaire, nous sommes plus portés à pousser dans nos expériences et nos ressources pour faire du bien aux autres, comme il l'a fait. Les histoires de gens qui aident et bénissent les autres pendant la période de Noël sont légion. C'est bien entendu l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous réjouissons tant en cette période de Noël. L'une de ces histoires s'est produite il y a tout juste quelques semaines à West Jordan, en Utah. Ethan von Lumen, 4 ans, luttait contre une forme aiguë de leucémie depuis l'âge de 2 ans. Il avait traité au moyen d'un médicament en cours d'expérimentation, de radiothérapie et d'une transplantation de moelle osseuse. Le cancer avait été en rémission pendant quelque temps, mais depuis octobre dernier, il était incontrôlable et incurable. Le père d'Ethan, Merrill, et sa femme, Jane, se sont rendus compte que leur petit garçon ne serait bientôt plus. Merrill a dit, « Je veux qu'il sache combien je suis fier qu'il ait mené ce combat et qu'au milieu de ces difficultés, il était un tel exemplaire de foi et de force pour moi. » Halloween approchait, fin octobre. L'anniversaire d'Ethan était en novembre, et sa fête préférée, Noël, allait être le mois suivant. Quand il apparut qu'Ethan ne vivait pas assez longtemps pour connaître ces trois fêtes une dernière fois, les membres de sa famille et de son pieu, ainsi que d'autres voisins et amis, se sont unis pour organiser ces fêtes pour Ethan une semaine. Halloween le mardi, son anniversaire le jeudi, la veille de Noël le vendredi et le jour de Noël le samedi. Les parents d'Ethan, qui avaient souvent aidé les autres, ont alors accepté avec reconnaissance l'aide que tant de gens voulaient lui apporter. La veille de Noël, le 24 octobre, le Père Noël est arrivé chez les Van Lerum sur un camion de pompiers. Certains ont donné des cadeaux. Un garçon de 13 ans, inconnu de la famille, a donné sa collection d'animaux empaillés qu'il fabriquait depuis des années. Une station de radio a passé de la musique de Noël pendant 3 heures le soir pour Ethan et sa famille. Plus de 150 personnes se sont pressées devant la maison d'Evan Lullen et ont chanté des chants de Noël. Des membres de la paroisse ont fait une crèche vivante sur la pelouse. Un petit bébé représentait l'enfant Jésus. La famille a été emmenée dans une remarque chargée de foi tirée par un tracteur dans le quartier, où les voisins avaient décoré leur maison de lumières de Noël. Ensuite, Ethan et sa famille sont rentrés chez eux pour un réveillon de Noël en privé, et ils ont célébré Noël le samedi, mettant ainsi fin à leur semaine de fête. Ethan est mort 3 jours plus tard, laissant une famille et une ville enrichies par son exemple et leurs actes d'amour et de service pour rendre heureux les derniers jours d'un enfant malade. À Noël, comme nous le voyons, les histoires de sacrifice et de service se multiplient. Nos cadeaux et nos services peuvent réjouir des cœurs. La gentillesse des autres peut verser un baume guérisseur sur nos blessures. C'est vivre à la manière du Sauveur. Et puisque, comme lui, nous sommes descendus du ciel pour faire la volonté du Père, ce ne doit pas être seulement un événement annuel, mais notre manière de vivre. Dans tout ce qui concourt à approfondir notre compassion, à accroître notre compréhension et à purifier notre âme, les paroles du Christ nous rassurent. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je me réjouis de témoigner de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et je vous donne à tous ma bénédiction en ce Noël, au nom de Jésus-Christ. Amen.